Ce jour-là, il pénétra dans l'eau par un mauvais passage et on ne le retrouva que le lendemain matin, plusieurs kilomètres en aval, échoué dans un tournant de la rivière tout inondé de lumière, un ouroboo solitaire posé sur le ventre. Malgré les protestations outrées d'Ursula, qui le pleura avec plus de douleur que son propre père, José Arcadio Buendía s'opposa à ce qu'on l'enterra. « Il est immortel, » déclara-t-il, « et c'est lui-même qui a révélé la formule de la résurrection. » Il rendit la vie au vieil Atanor oublié et mit à bouillir un chaudron de mercure auprès du cadavre qui commençait à se couvrir de boursouflures bleues. Don Apollinar Moscoté se risqua à lui faire observer qu'un noyé non enseveli représentait un danger pour la santé publique. « Et pourquoi donc, puisqu'il est vivant ?» se borna à répliquer José Arcadio Buendía, qui alla jusqu'au bout des 72 heures de fumigation au mercure, alors que déjà le cadavre commençait à éclater en efflorescences livides, dont les sifflements ténus imprégnaient la maison d'une vapeur pestilentielle. Seulement alors permit-il qu'on l'enterra. Non pas comme n'importe qui, mais avec les honneurs réservés aux plus grands bienfaiteurs de Macondo. Ce furent les premières obsèques, suivies par la foule la plus nombreuse qu'on vit au village, à peine surpassées un siècle plus tard par le carnaval funèbre de la Mama Grande. On l'inhuma sous une pierre tombale érigée au centre d'un terrain qu'ils destinèrent au cimetière, avec une plaque sur laquelle demeura écrite la seule chose qu'on sut de lui, Melquiades. On lui consacra les 9 nuits de veille, profitant de la confusion qui régnait dans le patio où l'on venait boire du café, raconter des blagues et jouer aux cartes, Amaranta trouva moyen de confesser son amour à Pietro Crespi, lequel, quelques semaines auparavant, avait conclu définitivement ses fiançailles avec Rebecca et installait à présent un magasin d'instruments de musique et de jouets à ressort dans le quartier même où végétaient les Arabes qui, dans le temps, échangeaient leurs babioles contre des perroquets, quartier que les gens n'appelaient plus autrement que la rue aux Turcs. L'Italien, dont la tête couverte de frisettes laquées provoquait chez les femmes un irrésistible besoin de soupirer, traita Amaranta en gamine capricieuse qui ne valait pas la peine qu'on la prît trop au sérieux. « J'ai un frère cadet, lui dit-il. Il va venir m'aider au magasin. » Amaranta se sentit humiliée et, pleine d'une violente rancœur, dit à Pietro Crespi qu'elle était prête à empêcher les noces de sa sœur, même si, pour ce faire, elle devait allonger son propre cadavre en travers de la porte. L'Italien fut tellement impressionné par le tragique de cette menace qu'il ne put résister à la tentation d'en faire part à Rebecca. C'est ainsi que le voyage d'Amaranta, toujours différé en raison des occupations d'Ursula, fut organisé en moins d'une semaine. Amaranta n'opposa aucune résistance, mais au moment de donner le baiser d'adieu à Rebecca, elle lui susurra à l'oreille « Ne te fais pas d'illusions. M'emmènerait-on au bout du monde, je trouverai toujours moyen d'empêcher ton mariage, même s'il me faut te tuer. » À cause de l'absence d'Ursula, de la présence invisible de Melquiades qui continuait ses allées et venues discrètes d'une pièce à l'autre, la demeure parut immense et désertée. Rebecca était restée pour s'occuper de la bonne marche de la maison, cependant que l'Indienne se chargeait des travaux de boulange. À la tombée de la nuit, quand arrivait Pietro Crespi précédé d'un frais zéphyr, fleurant bon la lavande, toujours porteur d'un jouet en cadeau, sa fiancée recevait sa visite au salon principal, toutes portes et fenêtres ouvertes, afin de n'éveiller aucun soupçon. C'était une précaution superflue, car l'Italien s'était montré si respectueux qu'il n'avait même pas touché la main de celle qui serait sa femme avant un an. Toutes ces visites finirent par remplir la maison de jouets extraordinaires. Les danseuses automates, les boîtes à musique, les singes acrobates, les chevaux trotteurs, les clowns tambourineurs, la riche et surprenante faune mécanique qu'apportait Pietro Crespi eurent raison du chagrin de José Arcadio Buendía à la suite de la mort de Melquiades et le transportèrent à nouveau au bon vieux temps où il était alchimiste. Il vécut dès lors dans un paradis d'animaux éventrés, de mécanismes démontés, s'évertuant à les perfectionner par un système de mouvement perpétuel reposant sur le principe du pendule. Aureliano, pour sa part, avait délaissé son atelier pour apprendre à lire et à écrire à la petite Remedios. Au début, la fillette préférait ses poupées à cet homme qui venait tous les après-midi et à cause duquel on l'arrachait à ses jeux pour la baigner, l'habiller et l'asseoir au salon où elle recevait sa visite. Mais la patience et la dévotion d'Aureliano finirent par la séduire tant et si bien qu'elle prit l'habitude de passer de longues heures en sa compagnie, à étudier la signification des lettres et à dessiner dans un cahier, à l'aide des crayons de couleur, des maisons avec des vaches dans des enclos et des soleils tout ronds avec des rayons jaunes qui se cachaient jusque derrière les collines. Seule Rebecca se sentait malheureuse à cause de la menace d'Amarantha. Elle connaissait le caractère de sa sœur, son esprit orgueilleux et la violence de son ressentiment lui faisaient peur. Elle passait de longues heures dans les bains à sucer son pouce, s'obstinant à déployer d'épuisants efforts de volonté pour ne pas manger de la terre. Elle chercha ce qui pourrait bien soulager ses affres et fit appel à Pilar Ternera pour qu'elle lui lût l'avenir. Après une litanie de révélations imprécises et conventionnelles, Pilar Ternera lui fit la prédiction suivante. « Tu ne seras jamais heureuse tant que tes parents resteront sans sépulture. » Rebecca tressaillit. Elle eut l'impression de se rappeler un rêve et revit son arrivée à la maison, tout enfant, avec sa mallette et le petit fauteuil à bascule en bois, et un étui dont elle ne sut jamais ce qu'il contenait. Elle se souvint d'un monsieur chauve, vêtu de lin, le col de chemise fermé par un bouton en or, qui n'avait rien à voir avec le roi de cœur. Elle se souvint d'une très jeune et très belle femme dont les mains douces et parfumées n'avaient rien de commun avec les mains rhumatisantes de la dame de carreau, et qui lui mettait des fleurs dans les cheveux l'après-midi quand elle l'emmenait promener à travers un village aux vertes allées. « Je n'y comprends rien, » dit-elle. Pilar Ternera parut déconcertée. « Moi non plus. Mais c'est ce que disent les cartes. » Rebecca resta tellement préoccupée par cette énigme qu'elle en fit part à José Arcadio Buendía, lequel la gronda d'avoir ajouté foi aux prédictions des cartes, mais se fit un devoir d'aller sans bruit fouiller malles et armoires, déplacer les meubles, retourner les lits, regarder sous les parquets, à la recherche de la sacoche aux ossements. Il ne se rappelait pas l'avoir revue depuis l'époque de la reconstruction. Il convoqua secrètement les maçons et l'un d'eux révéla qu'il avait emmuré la sacoche dans une des chambres parce qu'elle l'importunait dans son travail. Au bout de plusieurs jours de sculptation, l'oreille collée au mur, ils perçurent le son creux du cloc-cloc. Ils perforèrent la cloison et furent en présence des ossements dans leur sacoche intacte. Le jour même, ils l'ensevelirent dans une fosse en pierre tombale, creusée à la hâte près de celle de Melquiades, et José Arcadio Buendía s'en revint chez lui soulagé d'un poids qui, l'espace d'un instant, avait pesé aussi lourd sur sa conscience que le souvenir de Prudencio Aguilar. En traversant la cuisine, il déposa un baiser sur le front de Rebecca. « Ôte-toi toutes ces mauvaises idées de la tête, » lui dit-il. « Tu verras que tu seras heureuse. » L'amitié de Rebecca rouvrit à Pilar Ternera les portes de la maison qu'Ursula lui avait fermée depuis la naissance d'Arcadio. Elle arrivait à toute heure du jour, aussi envahissante qu'un troupeau de chèvres, et trouvait dans les plus durs travaux un exutoire à son énergie frénétique. Elle pénétrait parfois dans l'atelier et aidait Arcadio à sensibiliser les plaques du daguerréotype avec une efficacité et une tendresse qui finirent par le confondre. Cette femme l'étourdissait. Le hâle de sa peau, son odeur de fumée, le trouble que jetait soudain son rire dans la chambre noire perturbaient son attention et le faisaient se cogner aux objets. Un beau jour, Aureliano étant occupé à ses travaux d'orfèvrerie, Pilar Ternera s'en vint s'appuyer à l'établi pour admirer sa patience et son application au labeur. Tout se passa en un rien de temps. Aureliano eut la confirmation qu'Arcadio se trouvait dans la chambre noire avant même de lever les yeux et de rencontrer le regard de Pilar Ternera, dont la pensée était parfaitement lisible comme exposée à la lumière de midi. « Bon, » fit Aureliano, « dis-moi ce qu'il y a. » Pilar Ternera se mordit les lèvres en souriant tristement. « Il y a que tu es bon pour la guerre, lui dit-elle. Où tu vises, tu mets dans le mille. » Ses présomptions se confirmant, Aureliano respira. Il se concentra à nouveau sur son travail, comme si de rien n'était, et sa voix se fit plus ferme et tranquille. « Je le reconnais, dit-il. Il portera mon nom. » José Arcadio Buendía récolta enfin le fruit de ses recherches. Il raccorda une danseuse à ressort au mécanisme d'une horloge et l'automate dansa sans s'arrêter au rythme de sa propre musique pendant 3 jours. Cette trouvaille l'excita beaucoup plus qu'aucune autre de ses folles entreprises. Il ne mangea plus, il ne dormit plus. Sans les soins vigilants d'Ursula, il se serait laissé emporter par son imagination jusqu'en un état de perpétuel délire dont il ne fut jamais sorti. Il passait toutes ses nuits à tourner en rond dans sa chambre, pensant tout haut, cherchant quelque façon d'appliquer les principes du pendule aux charrettes à bœufs, aux socs de charrue, à tout ce qui était utile à l'homme une fois mis en mouvement. La fièvre de l'insomnie épuisa tant ses forces qu'un beau matin, il ne put reconnaître le vieillard à tête blanche et au geste peu assuré qui pénétra dans sa chambre. C'était Prudencio Aguilar. Lorsqu'il l'identifia enfin, étonné que les morts vieillissent eux aussi, José Arcadio Buendía se sentit tout retourné par la nostalgie. « Prudencio !» s'exclama-t-il. « Comment as-tu fait ton compte pour venir de si loin jusqu'ici ?» Après un grand nombre d'années passées dans la mort, le regret du monde des vivants était si aigu, le besoin de compagnie si pressant et si atterrante la proximité de l'autre mort à l'intérieur de la mort, que Prudencio Aguilar avait fini par aimer son pire ennemi. Il devait rester longtemps à le chercher sans succès. Il enquêtait sur lui auprès des morts de Riohacha, des morts en provenance de la vallée de Upar, de ceux qui arrivaient du Marigot, et nul ne lui donnait de ses nouvelles pour la bonne raison que Macondo était un village inconnu des morts. Jusqu'au jour où Melquiades arriva, qui signala sa position par un petit point noir sur les cartes bariolées de la mort. José Arcadio Buendía conversa avec Prudencio Aguilar jusqu'à l'aube. Quelques heures plus tard, harassé d'avoir tant veillé, il fit irruption dans l'atelier d'Aureliano et lui demanda « Quel jour sommes-nous ?» Aureliano lui répondit qu'on était mardi. « C'est bien ce que je pensais, » dit José Arcadio Buendía. « Mais d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on continuait à être lundi, comme hier. Regarde le ciel, regarde les murs, regarde les bégonias. Aujourd'hui aussi, c'est lundi. » Habitué à ces extravagances, Aureliano ne prêta pas cas à celle-ci. Le lendemain, mercredi, José Arcadio Buendía revint à l'atelier. « C'est une vraie calamité, dit-il. Regarde l'air, écoute le vrombissement du soleil. Tout est pareil à hier et avant-hier. Aujourd'hui aussi, c'est lundi. » Ce soir-là, Pietro Crespi le trouva sous la véranda pleurant avec cette façon de pleurer disgracieuse qu'ont les vieillards. Pleurant Prudencio Aguilar, pleurant Melquiades, pleurant les parents de Rebecca, pleurant son papa et sa maman, tous ceux dont il était capable de se souvenir et qui se trouvaient seuls désormais dans la mort. Il lui fit cadeau d'un os à ressort qui marchait tout seul sur deux pattes, sur une corde raide, mais il ne réussit pas à le distraire de ce qui l'obsédait. Il lui demanda ce qu'était devenu le projet qu'il lui avait exposé quelques jours auparavant sur la possibilité de construire une mécanique à pendule permettant aux hommes de voler. Et José Arcadio lui répondit que ce n'était guère possible, car le pendule pouvait enlever n'importe quoi dans les airs, mais ne pouvait s'enlever lui-même. Le jeudi, il refit son apparition dans l'atelier avec une douloureuse mine de déterré. « La mécanique du temps s'est déréglée, » fit-il en sanglotant presque. « Et dire qu'Ursula et Amaranta sont si loin !» Aureliano le gronda comme un enfant et il prit un air soumis. Il passa 6 heures à examiner chaque chose, essayant de déceler une différence avec leur aspect de la veille, tâchant de découvrir en elle quelque changement qui révéla l'écoulement du temps. Toute la nuit, dans son lit, il resta les yeux ouverts, appelant Prudencio Aguilar, Melquiades, tous les morts, pour qu'ils vinssent partager son chagrin. Mais nul ne répondit à son invite. Le vendredi, avant que personne ne fût levé, il observa à nouveau l'apparence des choses de la nature, jusqu'à ce qu'il fût tout à fait convaincu qu'on continuait à être lundi. Alors, il saisit la barre qui servait à fermer une des portes. Et avec cette violence sauvage qui caractérisait sa force peu commune, brisa jusqu'à les réduire en poussière tous les instruments d'alchimie, le cabinet de daguerréotypie, l'atelier d'orfèvrerie, hurlant comme un possédé en une langue pompeuse qu'il parlait avec aisance, mais à laquelle on ne comprenait absolument rien. Il se disposait à en finir avec le reste de la maison quand Aureliano demanda au voisin de lui prêter main forte. Il fallut 10 hommes pour le maîtriser. 14 pour le ligoter, 20 pour le traîner jusqu'au châtaignier du patio, où on le laissa attaché, aboyant dans une langue étrangère, une écume verte aux lèvres. Quand Ursula et Amaranta revinrent, il était encore attaché pieds et poings liés au tronc du châtaignier, tout mouillé par la pluie et dans une totale simplicité d'esprit. Elles lui adressèrent la parole, il les regarda sans les reconnaître et leur répondit quelque chose d'incompréhensible. Ursula libéra ses poignets et ses chevilles blessées par la tension des cordes et le laissa seulement attaché par la ceinture. Plus tard, on lui construisit un petit auvent de palme pour le protéger du soleil et de la pluie.